Le Livrodrome, c'est un parc d'attractions ambulant sur le thème du livre, en partenariat avec le CNL, Centre National du Livre, et à destination des pré-ados et ados de 10 à 18 ans, destiné à leur donner le goût du livre, de la lecture et de l'écriture. De nombreux stands et ateliers ont été organisés dans ce cadre avec des auteurs jeunesse et des professionnels du livre, ainsi que des rencontres autour du livre les 24 et 25 juin dernier à la médiathèque Jacques Duquesne de Liévin. Aujourd'hui, on vous propose une interview croisée avec Pog et Thomas Priou. Avec la complicité de Boris pour Radio PFM, on va donc revenir sur leur collaboration et parler avec eux de leur dernière bande dessinée, Team Robots, tome 1.
Alors on accueille sur le Livrodrome Pog, bonjour.
Bonjour.
Et puis également Thomas Priou, donc bonjour. Bonjour. Vous faites partie d'un atelier, alors je pense que bah, le vôtre Pog c'est terminé, c'est bien ça?
C'est ça, moi j'ai voilà, donc terminé le boulot avec vous.
La machine à bulles, donc tous les deux. Alors ma première question à Pog, il vient de terminer son atelier, alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez fait faire aux personnes qui étaient présentes?
Alors je leur ai fait faire une planche de bande dessinée autour de notre série Trappeur de Rien, et le but du jeu c'était de leur montrer en fait que la bande dessinée, on agit, on réfléchit par étapes en fait. Donc c'est pas juste on fait un dessin bien du premier coup, mais on va passer par des bonhommes, ce que j'appelle des bonhommes bâtons, des bonhommes patates, et puis voilà, bah, et après on va passer en plusieurs strates comme ça pour améliorer le dessin, ajouter le décor et puis bien sûr la couleur.
Alors, comment ça s'est passé?
Ça s'est super bien passé, honnêtement. Donc j'ai eu beaucoup de parents qui sont restés et qui ont fait l'atelier avec nous, je les ai mis au travail aussi.
Alors vous, Thomas Priou, c'est Masterclass Illustration, c'est bien ça?
Moi j'aurais pas appelé ça comme ça, mais...
Moi c'est ce que j'ai dans le descriptif.
Hein. Alors moi en fait je fais un peu comme Olivier, c'est-à-dire que je fais des présentations de comment on fait une bande dessinée, donc avec les quatre étapes indispensables, du texte à la couleur. Donc ça c'est une première étape de ce que vous appelez la masterclass, et ensuite je fais une petite série de comment on dessine en fait. Souvent c'est un ou deux personnages, étape par étape, donc commencer par un rond pour la tête, etc. etc. Donc ce qui fait qu'on a deux parties, enfin j'essaie d'être assez complet en une heure pour avoir la partie théorie et la partie pratique. Sauf que vu le temps qu'on a, moi je peux pas aller jusqu'à faire de la bande dessinée. Donc je reste justement sur des personnages et je pense que c'est souvent assez clair et puis ça fonctionne plutôt bien. Voilà.
On est là aussi pour parler un petit peu de la petite BD qui vient de sortir, voilà, avec Team Robots. Du coup, vous êtes des geeks un peu tous les deux, non?
Thomas surtout.
Ah, alors, ça c'est une rumeur. Non, alors je suis pas un vrai geek, si ce n'est juste que je joue aux jeux vidéo depuis que je suis gamin. Après, voilà, j'ai plus le temps de geeker à des heures pas possibles. J'ai des enfants, j'ai une vie de famille et beaucoup de travail, donc j'ai plus le temps. Mais après, oui, ça. Du moins, la partie jeux vidéo m'intéresse beaucoup. Mais là, on a axé vraiment sur des petites têtes fortes qui fabriquent des robots. Et parce que. Moi, ça m'éclate de dessiner ça. Puis Olivier, lui, ça avait l'air de l'éclater d'écrire ça. Donc, on a associé nos envies communes pour faire ce livre. Peut-être un peu geek aussi, non?
Oui. Bah, c'est mes enfants aussi sont geeks. Donc, ils avaient envie que je fasse une BD sur les robots. Voilà, c'est venu tout simplement. Ils m'ont dit, ouais, faudrait que tu fasses ça, des robots. Alors, j'ai réfléchi à leurs envies, mais aussi aux miennes, et donc ça pouvait pas juste être ça. Donc c'est vrai qu'avec Thomas, on avait parlé depuis très longtemps de faire une BD sur le harcèlement, ouais. Même avant notre BD Trappeur de Rien. C'était les prémices de Team Robot étaient déjà là, et donc j'ai repris en ajoutant les robots.
ouais.
Et voilà.
Ouais, c'est vrai, ce qu'on avait, ça fait bien 6-7 ans qu'on avait cette envie de thématique. Et alors c'était à la base c'était un petit loup, et puis c'est un projet qu'on n'arrivait pas à placer, qui, c'est pas que c'était pas, ça intéressait pas les éditeurs, mais on trouvait peut-être pas le bon angle. Ce qui fait qu'on avait mis un peu la chose au placard, et c'est vrai que là c'était un peu l'occasion de remettre un peu pour ne pas rester juste dans du combat de robots simple, mais ajouter de la matière et du fond à l'ensemble.
Il y a quand même de la bagarre, mais il y a ce fond de harcèlement à l'école. Chez les héros, il va y avoir une évolution, en fait, parce qu'au début, tous les deux sont harcelés. Et vers la fin du tome 1, voilà, on commence à parler de ça, c'est qu'il va y avoir une scission entre les deux copains. Il y en a un qui va commencer à devenir lui-même harceleur, à profiter de ce pouvoir qu'il a acquis avec son robot. Et donc voilà, ça va être un peu le débat du tome 2.
Et tout n'est pas blanc ou noir, c'est-à-dire que même celui qui harcèle dans le tome 1, on pense le faire évoluer dans les tomes suivants pour pas que...
Oui, d'ailleurs, il y a un tome 2 qui est prévu en octobre.
Ouais, hein, que je suis en train sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, d'ailleurs, sur lequel j'étais encore avant de venir. Là, pour le moment, c'est deux tomes. On espère un troisième parce qu'on a des choses à raconter, à aboutir. Donc ça, on saura ça un peu en fin d'année, à vrai dire. Mais là, au moins, il y aura deux tomes sur...
On parlait du harcèlement, j'ai relevé aussi l'écologie, c'est des thématiques quand même qui s'accrochent vachement aux jeunes en ce moment.
Oui, c'est vrai, et d'ailleurs, moi-même j'avais fait une bande dessinée autour de l'écologie avant Team Robot, qui s'appelle Super Environment, qui était en fait plutôt sous forme de gag, en gros une gamine qui disait à son père, mais fais quelque chose pour l'écologie, parce que la planète elle va pas bien, quoi. Et sauf que le père c'est un peu une grosse andouille, qui comprend rien à rien, et qui se dit, bah écoute, je vais me déguiser en super-héros, puis je vais faire mon maximum, quoi. Et donc ça se présentait sous forme de demi-gag. Et donc ça me permettait de rire avec ça, mais sans donner de la morale ou quoi. Donc ce qui fait que moi c'était une thématique qui m'intéressait déjà. Et Olivier l'a apporté sous une forme aussi intéressante avec la décharge, le recyclage de matière, de réutilisation. Oui, c'est des thématiques qui sont bien importantes. Et ce qui était amusant d'ailleurs, c'est que quand nous on avait sorti en Super Environnement, on pensait être... avec de gros guillemets originaux, et même si bien sûr il y avait d'autres BD qui existaient déjà, mais c'est juste qu'au moment même où nous on est sortis, avec un an de décalage dû au Covid, en fait il y a 3-4 BD en même temps, sur la même thématique qui sont sortis, donc on a vu à quel point ça intéressait beaucoup de monde en fait, donc ça se présentait sous forme de films, de BD, etc.
Les personnages, donc on évoquait hein, ce harceleur, hein, il s'appelle Régis. J'ai repéré un petit peu quand même quelques petites références un peu. Donc il y a déjà le maillot, je sais pas si c'est vraiment le Punisher qui est représenté sur son t-shirt.
Alors pas vraiment, je l'ai fait un peu inconsciemment. C'est vrai que ça pourrait, mais bon. C'est un peu inconscient. Ouais.
Et puis des références cinématographiques, hein, on y voit Robocop, on y voit Metropolis qui est quand même le film culte de Fritz Lang. Alors j'imagine que... c'est des petits trucs que vous avez travaillé ensemble, que vous avez certainement...
Alors moi, pour être tout à fait honnête, Metropolis, je ne l'ai pas encore vu. Mais par contre, Robocop, je l'ai vu et revu. Et ça a traumatisé mon enfance, d'ailleurs. Surtout pour les premières scènes. Et oui, on a mis plein de choses des années 80, mais, jusqu'à intégrer une cassette audio, vidéo. Mais ça, c'est l'idée d'Olivier, d'ailleurs.
Oui, ça, c'est dans le scénario que j'ai cité les références, effectivement, à ces films. Mais on en mettra encore plein, oui.
Nous sommes toujours en compagnie de Pog et Thomas Priou pour un échange sur le premier tome de Team Robots, la dernière bande dessinée issue de leur collaboration.
En parlant de coulisses de la création, justement, quand vous travaillez depuis longtemps ensemble, comment ça se passe? Parce qu'on sent qu'il y a une symbiose hein, quand on lit ce bouquin. Les dialogues, là, je m'adresse aux scénaristes, il y a des bonnes punchlines qui sont envoyées. Notamment... on sait évidemment que c'est des jeunes qui rentrent en sixième, hein, c'est toujours aussi le passage d'une école primaire, un peu de l'innocence au début des soucis de la préadolescence et de l'adolescence. Et on sent quand même qu'il y a une dynamique en fait dans toutes ces punchlines qui sont envoyées avec des quelquefois cyniques, mais quelquefois aussi très drôles. Du coup, je ne sais pas comment vous fonctionnez ensemble pour écrire aussi. Est-ce que vous laissez carte blanche maintenant que vous vous connaissez bien ou...
Je te laisse répondre d'abord.
Oui, alors c'est vrai que souvent c'est le scénario d'abord. Après, ça arrive que Thomas m'envoie le découpage et qu'on se rende compte qu'il y a un blanc. Enfin, voilà. Et donc là, il faut ajouter un dialogue. Alors ça arrive, Thomas, tu me dis, tiens, là, il faudrait que tu rajoutes quelque chose. Donc là, on se réadapte l'un à l'autre. Là, tout de suite, on vient de se dire que sur une scène d'action, il manquait une case. Donc il y a des va-et-vient comme ça.
Ouais, et c'est une manière de fonctionner. Alors au tout départ, on travaillait ensemble. On travaillait ensemble d'abord sur Trappeur de rien en 2016. 15 ou 16, et en fait Olivier a une écriture qui fait qu'il y avait beaucoup de légèreté, alors dans le sens où il me laissait beaucoup de liberté, il me disait voilà, il se passe ça, et puis des fois je me disais mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je dois intégrer, qu'est-ce que je dois faire, et donc j'ai appris à comprendre aussi lui ce qu'il attendait, et tout en m'appropriant aussi les textes qu'il m'envoie. Et donc, moi, c'est une écriture maintenant qui me plaît beaucoup parce que je peux proposer des choses. Si j'ai besoin d'intégrer des personnages supplémentaires ou des détails ou quoi, je peux le faire sans que ça bloque le scénario. Et oui, en effet, parfois, si on sent que ça peut bloquer, donc moi, il m'envoie le texte, je lui dis ce que j'en pense. Et au moment même de faire la mise en place, je vois si en termes de narration, ça bloque ou pas. Parce que je suis très attaché à ce qu'il y ait une fluidité comment on fait passer d'une image à l'autre sans que le lecteur bloque. Mmh. Parce que de toute façon, si on commence à faire bloquer le lecteur sur une image, le pari est perdu et il pose le livre et puis il fait autre chose. Mmh. Donc je suis très attaché à ça. Et donc ce qui fait que parfois, alors il y a des séquences où ça passe nickel, Olivier a bien vu le truc, et voilà. Et parfois il peut avoir soit donc un manque de dialogue, soit une information qui va me manquer. Et je lui dis, mais au fait là, comment ça se fait qu'il n'y ait pas ça? Et puis il me dit, bah écoute, on va faire ça. Et puis donc on se comprend, on arrive à dialoguer facilement, et ce qui fait qu'on arrive à construire quelque chose qui, j'espère, tient la route. Et puis voilà, ça dure pour le moment. Moi, ça me plaît beaucoup de bosser comme ça, en tout cas.
C'est vrai que, je trouve qu'un illustrateur ne doit pas hésiter à dire, tiens, j'ai envie de rajouter une case, ou j'ai envie de fusionner ces deux-là. Moi, enfin, en général, je dis, vas-y, si tu le sens comme ça, il n'y a pas de problème. Et Thomas, souvent, aussi, peut décaler une case. C'est-à-dire, la case qui venait page suivante, il peut la ramener sur la page précédente. Ça termine mieux, un peu en cliffhanger, et hop, on rebondit. Donc, je suis tout à fait ouvert à ce qu'on bouge. Si la BD en devient bien sûr meilleure, on y va tout le temps.
Et juste pour compléter la chose, c'est que je travaille aussi avec d'autres scénaristes qui, eux, dessinent. Donc quand ils m'envoient les histoires, souvent ils sont dessinés et ça peut créer un blocage, en fait, où on se dit, bah, il faut absolument coller à ce qu'a dessiné le scénariste. Et surtout quand ce sont des bons dessinateurs. Alors que justement, là, c'est un peu une récréation, en fait, de travailler sur les textes d'Olivier, parce qu'il y a beaucoup plus de légèreté, et puis c'est plus un terrain de jeu où je peux faire un peu plus ce que je veux, quoi. Contrairement au scénario dessiné où il faut savoir se détacher et s'approprier la chose. Donc c'est des expériences différentes.
Et elle travaille avec Armel aussi, un métier qu'on connaît pas beaucoup, hein, qui fait les couleurs, hein, la coloriste. Pareil, comment ça se passe avec elle? Est-ce que les dessins, faut les mettre en couleur, etc. Comment vous organisez
Alors Armel, moi je connaissais déjà son travail, parce qu'elle travaille aussi dans le journal de Spirou, dans lequel je travaille aussi. Et je connaissais donc ses dessins, et à un moment donné, c'est un ami à moi qui m'a dit, mais tu... parce qu'on cherchait un coloriste d'un peu désespérément avec Olivier. Et puis à un moment donné, c'est un copain qui m'a dit, bah écoute, tu devrais demander à Armel, elle pourrait faire ça. Et puis il se trouve que ça passe plutôt bien déjà humainement, même si en fait moi je suis tellement absorbé par le travail que je donne pas trop d'indications. Et puis moi, c'est comme on voit, ça me convient, donc au pire, s'il y a des erreurs, je lui dis, quoi, si une erreur de couleur ou qui correspond pas à l'idée que j'en avais. Mais ce qui fait qu'à chaque page, je lui transmets, elle met sa palette de couleurs, puis voilà, on fonctionne de manière, en fait, très simple, quoi. Très très simple.
En plus des punchlines à l'intérieur, et d'humour aussi à l'intérieur de ce livre, il y a quand même peut-être aussi des envies qui ont été réalisées. Enfin, je pense à ces gamins qui vont en cours de techno et qui construisent une borne d'arcade. Mm-hmm. Enfin, moi, j'aurais adoré faire ça.
Ah ouais, c'est la liberté totale, là. Hein,
ah ouais.
Alors ça se fait vraiment. Hein. Il y a en bibliothèque, il y a des ateliers du mercredi où les gamins construisent une borne d'arcade et à la fin... peuvent jouer à la Neo Geo, quoi, hein, Street Fighter ou ce genre de choses. Donc ça se fait, hein, c'est réel, c'est pas exagéré. Il y a des kits sur internet avec des tutos.
Ils vont pas avoir l'oncle Yvon pour aller chercher des matériels recyclés, donc.
Non, mais il y a juste quelques connectiques à acheter, voilà, pour brancher les manettes, d'accord. Et tout, on peut le faire, c'est pas de la science-fiction.
Ah, je suis pas tombé dans le bon collège, alors.
Après, à la fin du livre aussi, y a le thème des réseaux sociaux, hein, qui revient, puisque il a viré sa cutie, comme dirait l'autre, hein, pour essayer de poster ce fameux caleçon, ce Régis en caleçon, alors qu'on lui avait conseillé de ne pas le faire. Mm-hmm. Donc là, j'imagine aussi que c'est un sujet sensible que vous aviez envie de...
Bah, c'est vrai que c'était le fil rouge de l'album, c'est le harcèlement, donc c'était une manière aussi de faire évoluer l'album d'un harcèlement physique où, en gros, les héros se faisaient taper, où là, en fait, il va faire le héros devient, ce que je disais tout à l'heure, harceleur, et va se venger par le biais des réseaux sociaux, ce qui démultiplie aussi la vengeance. Hein, donc ça, c'est pas physique, mais c'est peut-être même pire, psychologiquement. Donc oui, c'est dans l'air du temps de montrer aussi ces dégâts, et que c'est aussi important aussi comme souffrance. Quoi,
Surtout qu'on est passé à une époque où si on se faisait harceler au collège ou autre section, on se faisait harceler juste sur le lieu, quoi. Et souvent, on rentrait à la maison, mmh. on était dans une sorte de sas de sécurité où il n'y avait plus trop d'interaction avec les autres. Mmh. Maintenant, voilà, malheureusement, on peut se faire pourrir via les réseaux sociaux et ça a des dommages qui ont l'air encore pire qu'avant, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, le harcèlement ne s'arrête jamais. Et nous, c'était important d'intégrer cette thématique, parce que nous, nous-mêmes, on utilisons les réseaux. Donc, ce qui fait qu'on est là-dedans aussi, quoi. On est tous consommateurs des réseaux sociaux, sauf qu'on voit les dérives qu'elles peuvent avoir. Voilà, c'était vraiment important de l'intégrer au livre, et c'est un prolongement de la thématique initiale.
C'est intéressant aussi parce que dans ce harcèlement aussi, le personnage qui se fait harceler ne le dit pas à ses proches. Il invente toujours une excuse.
Je pense que c'est le cas souvent. Enfin, on a
c'est
la honte.
C'est quelque chose qui est réel aussi.
Oui, on a la honte d'être harcelé, donc c'est quelque chose qui n'est pas glorieux et on peut le camoufler. Tout comme quand on est battu, voilà, c'est pas toujours quelque chose qu'on communique et sur lequel on partage.
Ces élèves, ils ont un an d'avance et c'est quelque chose qui cache à des enfants du coup, qui sont encore à l'école primaire, quand ils se rencontrent notamment. Ils parlent de popularité aussi.
Oui, et, bah, c'est aussi un thème assez fort. Aujourd'hui, on voit bien qu'être populaire, c'est le plus important. c'est vrai que nous, quand on fait les interventions dans les classes, moi, une des questions, je ne l'avais jamais eu avant et maintenant, je l'ai presque à chaque fois, c'est « Est-ce que tu as une chaîne YouTube ?» Non. Donc là, ils sont déçus, les enfants. Il y a quelques auteurs là qui se mettent sur TikTok. Bon, je sais pas, j'ai pas franchi le pas. mais oui, cette popularité aujourd'hui, c'est un des thèmes très important pour les jeunes, je pense. Mm-hmm.
Peut-être prochain projet. À part le tome 2, justement. Le Team Robot.
On n'abandonne pas les trappeurs. Ouais. Du coup, on relance Trapper 6 après quelques années d'interruption.
Ça fait 3 ans en fait qu'on n'a pas fait de trappeur ensemble. Et ça fait un moment qu'on. Alors à la base, on devait arrêter. Puis finalement, les idées ont commencé à se mettre en place du côté de chez Olivier. Et puis moi, niveau dessin, j'avais des envies en fait, qui revenaient. Et puis Olivier a écrit un tome suivant, en imaginant même aller jusqu'au 10. Après, on verra si on peut le faire ou pas. Et donc, ce qui fait qu'à partir de septembre, on repart sur un nouveau tome de Trappeur de Rien, qui devrait sortir, je l'espère, au printemps, au maximum rentrée 2023. Donc, voilà, pour les projets ensemble, c'est juste Trapper pour le moment et Team Robot, bien sûr.
Et Team Robot 3, si tout va bien.
Avant de terminer, votre pseudo POG, c'est une référence au POG
Du tout. C'est simplement mes initiales.
Ah, d'accord.
Voilà.
Okay.
Je le vanne tout le temps là-dessus aussi.
Ouais, mais je pensais à ça du coup. Comme du coup, je me dis, bon, peut-être que c'est une référence. Et du coup, vous, le dernier jeu vidéo auquel vous avez joué,
c'est lequel? Oh là là, mais j'ai une pile de jeux. Des choses qui sont encore emballées depuis 2 ans.
Le grand coup de cœur du jeu vidéo.
Alors, par contre, je peux quand même répondre à la question, c'est que le dernier jeu auquel j'ai touché, c'est le dernier Tortue Ninja, là, le beat'em up Shredder Revenge. Et après, moi, mes coups de cœur, moi, c'est Donkey Kong Country sur Super NES et Metal Gear Solid 1 sur PlayStation. Ça, c'est les jeux qui m'ont vraiment marqué et Super Mario 3 aussi. Mais je suis un peu de la vieille, c'est-à-dire que là-dessus, il y a des jeux vidéo récents qui me plaisent, mais je reviens toujours à ces jeux-là. Et bien sûr, j'allais oublier un de mes jeux favoris, c'est Zelda 3 aussi sur Super Nintendo, qui est un des meilleurs jeux de tous les temps, à mon sens. Voilà.
Et du coup, la question bonus, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution du graphisme? Parce que maintenant, on a vraiment l'impression d'être dans un film complètement.
C'est très drôle, parce qu'avec mon frère qui a 9 ans de plus que moi, on se disait déjà il y a 25 ans, il me disait tu vas voir dans des années, ce sera des films, et puis on y est, quoi. Et à chaque sortie de nouvelles consoles, on se disait mais oh là là, l'évolution, PlayStation 2, on voyait l'évolution par rapport à PlayStation 1, on dit oh là là, mais c'est incroyable, et puis à PlayStation 3, etc. Et j'ai l'impression que maintenant, on a quasiment plus de marge de manœuvre visuelle sur l'esthétique des jeux vidéo, on n'a plus trop de marge. Maintenant, j'ai l'impression que la marge, elle vient plutôt des sensations qu'on peut avoir sur le joystick qui va vibrer, ou PlayStation VR, la réalité virtuelle. Maintenant, j'ai l'impression que ça va plutôt basculer de ce sens-là. Et puis, évidemment, j'espère toujours qu'il y ait du travail sur les scénarios. Mais c'est vrai que techniquement, visuellement, on ne sait plus du tout ce qu'on a connu étant gamin.
Ouais, c'est assez incroyable. Nostalgique ou pas, alors?
Moi, je le suis plutôt pour cette partie-là, ouais.
Bon, ce sera le mot de la fin. Alors, merci à vous deux d'être passés par les studios. Et puis, on vous souhaite un bon livrodrome, un bon atelier. Et puis, du coup, à bientôt pour de nouvelles aventures avec Team Robot et les Trappeurs de Rien.
À bientôt.
Merci beaucoup. Bonne journée.
C'était un sujet réalisé depuis le studio mobile de PFM lors du Livrodrome, qui s'est déroulé les 24 et 25 juin dernier à la médiathèque Jacques Duquesne de Liévin. Une interview croisée au sujet de leur collaboration et de leur dernière bande dessinée, Team Robots, tome 1. Un entretien réalisé avec la complicité de Boris pour Radio PFM.